Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé aujourd'hui, très chargé avec nos coups de cœur télé de cette semaine avec, dans un instant, Vincent Dubois qui sera notre invité exceptionnel, le coproducteur du film qui sera diffusé ce soir sur M6, Les Baudins mènent l'enquête en Corse, sera avec nous et va venir accompagné de Maria Baudin aujourd'hui, ça va pas rigoler, je vous le dis. Et puis on va également accueillir Julianne Roth également à l'affiche des Pénacs qui reviennent demain soir sur France 3, sera avec nous. Nicole Calfan sera également notre invitée exceptionnelle pour la suite de tout cela. Je te le donnerai sur France 2. Valérie Damino viendra nous parler de sa tournée et de son spectacle. Jordan Mouirac également sera notre invité pour Danse avec les Stars. Et puis en fin d'émission, Maison de Retraite 2, la spéciale aujourd'hui avec Kev Adams, Claude Zidi Junior, Firmin Richard et Anne-Marie Vin qui seront avec nous. Et puis en exclusivité podcast aujourd'hui sur notre site internet onécoutelatélé.com, nous aurons le plaisir de recevoir Vanessa David pour La Tribu qui sera diffusée ce soir sur TF1, ainsi que la grande gagnante de Destination X, Hélène Bertin, qui sera donc avec nous également. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, c'est parti.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, notre invitée aujourd'hui, Valérie Damido, qui est avec nous. Bonjour Valérie.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien, très heureux de te retrouver. On va pas forcément parler d'écho, quoique, de façon très détournée aujourd'hui, puisqu'on va parler de ton One Woman Show, puisque Valérie Damido s'expose sur scène.
Exactement, je fais un show, un stand-up, je raconte ma vie et on parle quand même de déco, donc finalement on parle de déco.
Un nouveau challenge pour toi?
Ouais, un nouveau challenge et en même temps un régal parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire, j'osais pas, Jari m'a beaucoup poussé à le faire et je l'ai fait. Et du coup je me régale, vraiment.
Aujourd'hui, pas de regret, j'imagine?
Non, aucun regret. Moi, je regrette jamais ce que je fais. Tu sais, je suis trop vieille pour ça. J'adore être près du public. Moi, c'était ça que j'aimais dans l'émission de déco, c'était que j'étais avec les gens. Et là, c'est génial de pouvoir être avec eux, les voir après, avoir les rires. Enfin, c'est le bonheur.
Quand on est devant des caméras, quand on tourne des émissions, ça reste relativement exprès. Là, c'est vrai que là, tout de suite, c'est concret. T'as le retour du public, t'as les rires, t'entends, tu peux peaufiner en même temps. Enfin, c'est assez dingue.
Ah ben là, j'ai joué 6 mois à Paris au Théâtre du Marais et c'est une salle de 100 places. Et c'est génial parce que j'avais les gens tout de suite au bord de la scène. Donc c'est bien une petite salle parce que si tu n'es pas drôle, tu le sais tout de suite et tu arrêtes ta carrière. Parce que les gens peuvent pas tricher, ils vont pas faire semblant de rire pour te faire plaisir, ils ont payé leur place. Hein, donc et c'est vachement bien, moi j'aime bien être cette proximité, j'adore les petites salles. Hein. J'ai eu la chance de jouer et d'être invitée au Festival des Flocons aux Angles. C'était une très grande salle de 1500 personnes, j'étais très impressionnée mais... C'est complètement différent que ma petite salle où j'étais tellement bien au Marais. Donc non, c'est chouette, c'est vraiment chouette.
En tout cas, qu'est-ce qu'on va y voir sur scène? Quand Valérie Damido s'expose, ça donne quoi?
Alors, je raconte ma vie. Donc, je parle évidemment de tout ce qui est la télé, tous les programmes que j'ai faits, le programme phare étant déco, parce que c'est là où les gens m'ont découvert. Mais pas que. Je parle de mon enfance, je parle de mes vacances en Espagne, je parle de mes parents, je parle de vraiment de comment j'ai grandi, où j'ai grandi. Je viens d'Argenteuil et je raconte tout ça aux gens. Et puis, je fais beaucoup participer le public. On danse, on rigole, on bouge.
C'est un spectacle intime, si tu te racontes du coup.
Ah, je raconte tout. Et à la fin, il y a même un petit film. Ouais, avec plein d'archives. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait une caméra 8 mm, qui a beaucoup filmé. Donc, j'ai fait un petit montage de fin pour montrer aux gens que ce que je raconte, c'est pas des conneries. Et donc, non, c'est plutôt chouette. J'aime bien.
T'as connu, évidemment, pour Déco, après comédienne aussi, avec Victoire Bonneau, que tu as incarné et qui a été tourné d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, Valérie, à quel moment t'as vu le déclic de dire « je veux monter sur scène, je veux faire du One Woman Show » ?
Parce que je ne fais moins de télé. Tu sais, quand tu vieillis à la télé, tu fais moins d'émissions, hein, bizarrement. Et du coup, j'avais plus de temps.
Ce fameux rapport aux femmes de 50 ans, c'est ça ?
Oh, c'est totalement ce rapport d'ailleurs. C'est tellement ce rapport qu'avec ma fille, elle dessine. Donc on a déjà fait des BD où elle racontait mon enfance et mon adolescence. Et là, on fait un roman graphique qui va s'appeler Vieille au pluriel. Justement pour parler des femmes après 50 ans, qu'on considère toujours comme bonne acheter la poubelle, on va pas se mentir. Hein. Donc,
Tu montres le contraire, c'est ça qui est bien.
Ah oui, bah il faut. Mais non, c'est vrai que j'avais envie. Moi, je suis un peu hyperactive. Donc, écrire, ça m'a pris du temps. Et le jouer, c'est un régal. C'est ça qui m'a donné envie. C'est que j'étais bien moins active à la télé. Donc, du coup. Et puis, Jarry, je te dis qu'il m'a bien poussée. Parce que j'ai fait les premières parties de Jarry. J'ai fait des sketchs. Et il m'a dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais un sketch ? Fais complètement le truc. Il m'avait invité au festival Estuaire d'en rire à Honfleur. J'avais fait un sketch sur Danse avec les stars. Parce que je venais de sortir de Danse avec les stars. Et il m'a dit, mais écris le spectacle, raconte ta vie. Et donc, je raconte ma vie.
Est-ce qu'il y a une émission que tu aimerais faire aujourd'hui ? Comme Massinger ou je sais pas.
Écoute, moi j'aimerais refaire de la déco parce que ce que j'aimais dans cette émission, c'est qu'il y avait un vrai côté sociétal. On aidait les gens et tout, et on était vraiment en contact avec les gens. Donc je pourrais refaire une émission de déco. On pourra jamais refaire déco, mais j'aimerais... Après, une émission existante que j'aimerais faire... Je sais pas, la télé a vachement changé, je trouve. Je sais pas si on pourrait avoir la liberté que j'ai eue il y a 17 ans quand j'ai fait Déco. Je sais pas, il y a plein d'émissions qui sont sympas. Hein. Je suis une addict de Top Chef, j'en rate pas un, vraiment. J'adore Marié au premier regard.
Ah ouais, moi aussi.
Je suis fan absolu. Je ne rate pas Le Bonheur est dans le Pré, hein, ça, on va pas se mentir.
L'amour.
Ouais, mais moi je dis le bonheur à chaque fois.
Bah oui, remarque, ça amène du bonheur.
Ouais, j'adore cette émission. Je sais pas ce que je pourrais faire comme émission. Probablement un talk show avec des potes, mais tu sais comment ça m'a pas porté bonheur le talk show avec les potes, donc non, moi là ce que j'aimerais faire aujourd'hui c'est de la radio, vraiment. Je trouve que c'est un métier formidable, la radio, et j'aimerais refaire les émissions à l'époque de Belmar où il aidait les Français, tu sais, faire une émission de solidarité. Je trouve qu'on est dans une époque difficile où on a besoin de bienveillance et de solidarité. J'aimerais refaire une émission avec la bagnole qui circule et qui fait gagner de l'argent aux gens et mettre des gens en contact qui ont besoin de trucs. J'aimerais faire une émission un peu où on s'aiderait, en fait, une émission d'entraide mais un peu marrante. J'aimerais faire de la radio, voilà.
Rien n'est un hasard dans la vie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette proximité dont tu me parlais avec ton public, elle est tellement forte qu'aujourd'hui, en quelques années, en 6 ans, 8 ans de déco, t'es devenue une icône de la décoration en France. Alors que derrière, t'as fait mes plus belles vacances, tu fais encore d'ailleurs mes plus belles vacances l'été. Et c'est incroyable justement que ça te colle comme ça à la peau. Je crois que tu as tellement mis de cœur justement sur cette émission et dans la proximité avec les gens que tu aidais. Aujourd'hui, t'es devenue une véritable icône dans ce domaine.
En fait, je pense que les gens, ils m'ont tellement eu dans leur salon pendant 9 ans. Donc du coup, ils m'ont identifié comme la dame de la déco. Et dans la rue, les gens qui m'interpellent, ils disent pas Danse avec les stars ou Massinger, la renarde. Hein. Ils disent déco, encore aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que les gens qui sont venus me voir au spectacle, j'ai de tous les âges. Et j'ai des gens de 20 ans qui ont pas forcément beaucoup vu l'émission, qui disent « Ah, on regardait avec mes parents quand on était petits et tout ». Enfin, c'est marrant de voir que cette émission a vraiment marqué les gens. Et je pense que voilà, j'étais quand même 9 ans dans leur salon tous les dimanches, plus en prime. Donc pour eux, j'étais un peu la fée du logis, quoi, tu vois.
En tout cas, ami directeur de chaîne, à l'heure où on est en train de faire revenir Star Academy, Plus belle la vie, bientôt Le Juste Prix, sur M6 ou bien d'autres émissions comme ça. Pourquoi pas faire revenir Déco avec Valérie D'Amido ? C'est l'appel en tout cas qu'on lance aujourd'hui.
Bah écoutez, les émissions de Déco, allons-y. M6, moi j'y retourne quand ils veulent. J'ai pas de contrat avec aucune chaîne, moi je suis un électron libre. Mais surtout, les mecs de la radio, venez, on fait une émission, on aide les gens, on en a besoin.
Exactement. Et puis en attendant, Valérie D'Amido s'expose. On va écouter un petit extrait, puis juste après, je reviens et je donne toutes les dates dans notre région où vous allez pouvoir voir Valérie près de chez vous. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Depuis que je suis toute petite, j'adore caresser des trucs à poil. faites pas trop les hypocrites, hein. Beaucoup d'entre vous, grâce à moi, vous avez passé tous vos week-ends en amoureux chez Laurent Merlin, non ?
il y a la meuf de déco, elle m'a fait une chambre New York, et je crois qu'en plus, elle veut me pécho.
Ouais, j'ai chanté en prime en costume déguisé en renarde. Dans Mask Singer.
Le masque est grand comme ça.
Et ils ont mis les yeux ici. Mais qui marche comme ça? On parle beaucoup de maltraitance dans les EHPAD. La première maltraitance, c'est qu'on leur fout d'Eric toute la journée en VO. Hein.
Allez, pour voir Valérie Damido sur scène, rendez-vous donc par exemple vendredi soir à Royan, à la salle Jean Gabin dans le cadre du festival Escale d'Humour, ou encore le 16 mars à Fourmise dans le Nord et le 31 mai à Gagny dans le 93. On va se retrouver dans quelques instants. Surtout ne bougez pas, Vincent Dubois, Maria Baudin et tous les autres débarquent dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Se regarde, peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Pardonné.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, les Baudins mènent l'enquête en Corse. C'est notre coup de cœur télé ce soir sur M6 à 21h10. Une nouvelle aventure inédite qui est coproduite notamment par Vincent Dubois qui est en ligne avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour, ça va bien?
Eh ben oui, ça va bien. Et puis oui. Que d'aventures, effectivement, que ça soit cinématographique ou télévisuel, le public attend avec impatience, je crois, et M6 aussi ce soir, parce que ça a été tourné en octobre, ça a été fini de monter la semaine dernière, et c'est déjà diffusé ce soir. C'est incroyable, ça a été un marathon, ça.
Ah oui, oui, c'est vrai, mais on a tous été un peu surpris. Je pense que M6 est devenu notre chaîne de prédilection avec les Baudins et ils ont envie de faire plaisir très vite aux téléspectateurs. Nous, on est plutôt flattés, hein, voilà, ça nous fait plaisir et puis on espère que notre travail va faire plaisir aux téléspectateurs et qu'ils vont bien se marrer, voilà.
On dit souvent que vous êtes de gros bosseurs, évidemment tous les deux avec Jean-Christian, parce que les Baudins en Thaïlande, c'était il y a un an et demi, ça va très très vite, c'était un succès incroyable partout en France.
Bah, on est des bosseurs, on fait surtout ce qu'on aime, et quand on fait ce qu'on aime dans la vie, en fin de compte, c'est moins compliqué de travailler. Ça donne du courage, de la passion, hein, voilà. Donc, on a de la chance. Hein. On est conscient que c'est un luxe de faire ce qu'on aime. Hein.
Ouais, c'est à tout le monde. Et quand c'est suivi comme ça, à tel point par le public, alors je vais m'adresser un peu plus aux producteurs. Mais est-ce que ces deux personnages, Maria et Christian, sont, on va dire, toujours gérables, ou des fois, quand même, ça part en vrille?
Ça part en vrille, évidemment. C'est ce qu'on attend d'eux aussi. Non, Maria et Christian, ils sont pas raisonnables, bien sûr. C'est ce que les gens aiment chez eux, c'est qu'à un moment donné, ça se barre en sucette. Voilà, parce que c'est des gens qui sont cash. Maria n'a pas la langue dans sa poche. Christian, il fait boulette sur boulette. Heureusement que sa mère est à côté. Mais voilà, c'est ce qui génère la comédie, hein. Et je pense qu'on n'est pas là pour être raisonnable, hein. On est là pour donner du plaisir aux gens, voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de faire depuis 30 ans.
Bon, tu nous as amené une petite surprise dans un instant. On va parler Clémentine, on va parler un peu Corse. Mais d'abord déjà, pourquoi la Corse ?
Ah bah parce que la Corse, on aime depuis longtemps l'île de beauté. Et puis on trouvait très intéressant de confronter nos personnages des Baudins à la culture corse, parce que en fait les Corses, c'est des gens qui ont le souci de leurs racines et qui ont envie de garder leurs traditions. Ils se laissent pas marcher sur les pieds. Tout ça, en fin de compte, ça ressemble aux caractéristiques de la Maria Baudin.
Et je crois que la prochaine aventure, ça va être au Maroc bientôt.
Alors en fait, oui, on est dans la dernière ligne droite des préparatifs de notre prochain long métrage. Après les Baudins en Thaïlande, les Baudins vont partir, ouais, un peu au Maroc. Alors ça commence au Salon de l'Agriculture à Paris, et puis après, encore une fois, les choses vont pas se passer normalement, voilà.
Bon, on va bien rigoler, en tout cas j'en suis certain. Alors tu nous as amené une petite surprise parce que tu es pas venu tout seul ce matin. Je crois que la Maria n'est pas loin.
Oui, bonjour.
Ah, bonjour ma chère Maria.
Ça va mon petit mignon?
Ah, ça va très très bien, je suis toujours très heureux quand je vous entends Maria.
Oh, mais c'est très gentil mon petit mignon. Alors le Vincent voulait pas me laisser le microphone.
Oh la vilain.
C'est pénible, hein.
Ah oui.
J'étais obligé de le pousser pour prendre sa place. Oui, bah alors dis donc, il paraît qu'on passe à la télé ce soir, nous, les Baudins.
Oui, exactement, et vous allez nous emmener tous les deux avec votre grande année de fils, en Corse, pour une aventure assez incroyable, puisqu'il va être pris un peu d'hallucination en allant sur la tombe de son père, et il va avoir des flashs, un meurtre doit se commettre en Corse, et évidemment, Maria et Christian, tous les deux, vous allez partir en Corse pour essayer d'éviter le pire.
Ah oui, bah encore une fois, c'est le gamin qui m'embarque dans ses aventures. Faut toujours qu'il fasse pas les choses comme les autres, lui, bon. Je vais essayer de le soutenir, vous allez voir, on a vécu des moments assez cocasses, comme dit l'autre. Mais les Corses nous ont bien accueillis quand même. On a bien bu, on a bien mangé, et on a appris à se servir de certaines armes lourdes.
Ah, voilà. J'ai vu ça, j'ai pu le voir avant tout le monde, et c'est vrai qu'on va évidemment bien rire, mais avec cette petite atmosphère corse qui est très très drôle évidemment dans les films. Mais dites-moi Maria, entre la Thaïlande, la Corse, bientôt le Maroc, vous allez prendre des coups de soleil à force?
Oui, on sent pas le renfermé, ça c'est sûr. Ah ben on aime ça bouger de chez nous, hein, ça, de temps à autre ça fait pas de mal. J'ai passé 80 ans à rester chez moi, enfermée comme une pauvre malheureuse à m'occuper de mes chèvres. Donc là, maintenant, je suis bien contente. Je suis devenue une espèce de Madonna avec des varices, voyez-vous.
Exactement. Mais bon, voilà. Au début, ce soir, on va quand même voir un petit peu, on va parler de Ségolène, on va parler un peu des personnages de la ferme, puisque l'aventure va démarrer à la ferme quand même ce soir.
Ah oui, ah bah oui, on part de chez nous, bien sûr, oui. On part de chez nous, puis après, ben, on... Enfin, je veux pas trop en dire, hein.
Ben non.
Mais t'es en train de me tirer les verres du nez.
Eh ben, hein? j'essaye un petit peu.
Oh, ils sont-ils malins, ces journalistes. Oui.
Bon, est-ce qu'il y a eu un moment drôle, en tout cas, avec Christian, là? Est-ce qu'il y a eu, je pense, à un moment où il doit vous grimper sur le dos, et puis finalement, ça s'échange. Alors ça, l'extrait visible sur les réseaux sociaux, on spoile pas grand-chose. Mais d'un seul coup, on a l'impression que vous vous retrouvez devant Patrick Fiori, quoi, un peu.
Ah ben oui, mais non, mais c'est parce que l'autre espèce de loustique, il a trop bon appétit et il a énormément grossi là-bas en Corse. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit peu de sport à faire, c'est sa vieille mère qui s'y colle parce que lui, il n'arrive pas à lever son gros derrière. Voilà, c'est ça. Donc, c'est moi qui dois m'occuper de lui et puis de faire les choses à sa place, en fin de compte. Alors, bon, ça me déplaît pas, mais ça me fatigue, voyez-vous, parce que moi, j'ai plus l'âge de ces six magrets-là,
eh oui.
Comme on dit chez nous.
Et puis, il finit en slip encore.
Oui, ah oui, voilà, oui, ça, vous allez voir. C'est... Oui,
on va bien rigoler.
Oui, je sais pas si c'est avec ça qu'il va réussir à attirer la gente féminine.
Je sais pas, il va essayer, comme d'habitude, mais bon, c'est pas gagné. Ah,
non, c'est pas gagné.
Bon, Maria, on va bientôt vous revoir aussi sur scène à la ferme cet été aussi, en résidence.
Oui, au mois de juillet. Bon, ben, c'est déjà complète. Vous voyez comment que les gens sont fidèles à nos galipettes, hein. Ah oui, ça, les gens ont envie de rigoler, voyez-vous, parce qu'on traverse une époque quand même qui est pas toujours facile.
C'est clair.
L'autre jour, on a été soutenir nos amis les agriculteurs parce qu'ils ont eu raison de lever le drapeau et lever leur bouclier parce que c'est important que les gens qui travaillent soient récompensés de leur travail et pas récompensés seulement que ceux qui manient la monnaie, voyez-vous.
Exactement.
Voilà.
Vous leur amenez du fromage un peu?
Oui, bien sûr. Ah, ah. Oui. Du bon fromage de chèvre.
Exactement. Oui. Les fromages à voilà. Ségolène.
Et oui, voilà, la chèvre Ségolène. Oui, bien sûr, notre petite basse-cour.
Bon, continuez à nous faire rire, Maria, on vous aime. Très
merci.
Fort, évidemment, tellement fort.
C'est avec gentil, Christian. Je vous embrasse tous.
Et puis on vous dit à très vite, vous nous repassez Vincent quand même, juste avant de partir.
Oui, viens là, grand psycho. Oui, allez, au revoir, à bientôt.
À bientôt, Maria.
Allô, alors, ça s'est bien passé.
Elle est incorrigible, cette Maria, hein, Vincent.
Ah ouais, non, mais elle est terrible. Hein.
Ah là là, faut la gérer.
Ah
hein.
Ouais. Ah non, là, mais je m'en occupe pas. C'est elle qui gère, c'est pas le contraire.
Ouais, j'ai l'impression qu'elle vous manie à la baguette un peu tous, quand même.
Ouais, bien sûr, c'est Maria, mais bon, on l'aime beaucoup quand même.
Bon, je vous embrasse aussi fort, Vincent, évidemment, et puis Jean-Christian Fressinet aussi, qu'on embrasse, évidemment.
Eh ben, merci.
Les Baudins vont mener l'enquête encore ce soir à 21h10 sur M6 pour le meilleur et pour le rire. Et on va se quitter avec la bande-annonce. Merci, à très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Bon, c'est bon, qu'est-ce que tu fous là? Mène-toi la rondelle parce qu'on va louper le bateau avec tes conneries.
Inédit sur M6, les Baudins partent en mission sur l'île de Beauté.
Bienvenue en Corse.
Vous êtes en vacances ici?
On est venu en Corse avec ma mère pour empêcher un meurtre qui va se produire bientôt.
Cramponne-toi mon gars, on va se marrer.
Cousine. C'est une bombe lacrymo cachée dans un saucisson.
Ah, mais c'est pas con ça.
Allez, Christian!
Bouge plus!
Généralement, en Corse, ils ont la rancune tenace et la gâchette facile.
On n'est pas le GIGN, hein?
On est mieux que ça, Christian.
Hein?
On est les Baudins.
Les Baudins s'enquêtent en Corse, une création exclusive M6, ce soir à 21h10.
Allez, on continue à parler de La Tribu cette semaine, votre série que vous avez commencé à découvrir lundi dernier sur TF1 avec Vanessa David qui nous rejoint, qui joue le personnage d'Alexandra dans la série. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour une première dans Chut, on écoute la télé. Et on va revenir un peu sur cette série justement qu'on a vu arriver la semaine dernière sur un sujet évidemment aujourd'hui tellement d'actualité, les familles recomposées. Oui. Il faut le dire, c'est très très d'actualité.
Complètement.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet?
Ben, ce sujet-là, entre autres, en vérité, tout. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'équipe, C'est des comédiens que j'adore, avec qui, pour la plupart, j'avais déjà travaillé. Et puis, j'adorais mon personnage, j'adorais le sujet, cette famille recomposée, vivre ensemble, comment cohabiter, comment recréer cette cellule familiale, redéfinir ce qu'est une famille et comment chacun peut avoir sa définition de la famille, que tout est possible. Il n'y a plus une famille que traditionnelle, voilà. Ça m'intéressait d'explorer ce sujet-là. Et le ton comédie, émotion, dramédie, des personnages qui sont relativement drôles, des chroniques familiales drôles et en même temps profondément ancrées dans le réel. Je pense que vraiment on peut se projeter là-dedans.
Et sans aucun souci.
Oui, chacun son vécu, mais c'est vrai qu'on peut vraiment, je pense que c'est assez universel. Et puis ce personnage qu'on m'a proposé d'Alexandra Chavanel, psychorigide, qui est à l'opposé de ce que d'habitude je joue, et qui est très touchante parce que derrière cette rigidité, voilà, l'humanité qu'elle a, on va la découvrir petit à petit. Je vous en dis pas plus.
Alors, on a déjà découvert les deux premiers épisodes où il y a eu des histoires d'anniversaire la semaine dernière, qu'on fait réunir en fait un peu tout le monde au final. Si personne voulait un peu mettre de l'eau dans son vin, bah, finalement, tout le monde, grâce aux enfants aussi, a réussi à se rassembler autour de cette fête d'anniversaire. C'est ça aussi qui est bien parce que c'est quand même aussi les personnages centraux, les enfants.
Oui, là, on en a vraiment des formidables. J'avoue qu'on a réussi à créer des liens. Bah, ça, on peut pas le choisir à l'avance. Hein. C'est vraiment, on se découvre sur le plateau quand on est partenaire adulte de scène. Eh bien, on a le métier derrière qui fait que on crée le lien de toute façon, etc. Bon, là, il se trouve que vraiment tout le monde s'entend très bien. Mais avec les enfants, c'est vrai, c'est à nous d'aller vers eux. Et j'ai trouvé que la directrice de casting Okinawa avait fait un travail formidable. Et que notamment j'ai une anecdote sur le petit Raphaël qui joue mon fils et qui est donc le fils de cette femme très psychorigide qui lui a donné une éducation pas du tout sévère, mais vraiment il y a des règles et voilà,
très limites.
Voilà, il y a des limites et il y a cette fameuse scène, vous l'avez vu la semaine dernière dans la piscine à boules où à un moment donné la réalisatrice disait allez les enfants à mon top, vous allez tous dans la piscine. Et donc elle donne le top, tous les enfants hurlent comme eux, voilà, des enfants qu'on connaît en général foncent en courant et lui de vraiment, mais naturellement ils ont tous sauté dans la piscine, lui s'est arrêté au bord de la piscine, il a retiré ses petites chaussures, il les a posées très bien rangées sur le côté et une fois que c'était très bien rangé, il a sauté dedans et je me suis dit ok, ça personne ne m'a demandé de le faire, il a été casté, il est parfait pour le rôle, il ressent le personnage quoi.
Bah c'est ça qui est chouette. Et puis en plus, c'est naturel, déconcertant, souvent, de jouer face à des enfants comme ça.
Oui, c'est vrai que c'est à nous de nous adapter parce qu'il y a une vérité dans ce qu'il propose. Et il y a une vérité, mais c'est vrai qu'il y a une question de timing. Ils n'ont pas la même. Ils ne peuvent pas être aussi endurants sur le nombre de scènes. Donc il faut être sur le coup, il faut être à l'écoute de l'enfant pour vraiment être à la hauteur de la sincérité qu'il dégage. Ça, c'est sûr.
On retrouve la suite de La Tribu, c'est ce soir à 21h10 sur TF1 avec les épisodes 3 et 4 qu'on va découvrir le quotidien de cette famille recomposée, tous ceux qui gravitent autour, dont le personnage d'Alexandra, évidemment. Dernière petite question, c'est une saison 2.
Écoutez, c'est en discussion, effectivement.
Vous avez en tout cas envie d'y retourner?
Alors j'ai très envie d'y retourner, j'ai hâte de lire ce qu'ils vont nous préparer et que voilà, a priori, ça pourrait être formidable de tous nous retrouver.
Merci Vanessa, à bientôt.
Merci à vous.
Martin m'a tellement parlé de votre merveilleuse famille recomposée.
Alors en vrai, c'est mon cousin?
Non, c'est ton demi-frère.
Par alliance et par erreur.
C'est normal, ça fait juste une semaine qu'on vit ensemble, c'est ça la famille recomposée. Hein.
Dis-moi, j'ai envie de la recomposer avec tout le monde, cette famille.
Je te préviens, ça va pas être hyper cool. Au mieux, ce sera... cool.
Ça serait peut-être bien que tu conduises un petit peu avec papa. Je te rappelle que papa, il a perdu son permis.
Je peux conduire avec toi si tu veux.
Je préfère conduire avec quelqu'un de ma famille, en fait. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard.
Venir chercher les enfants à l'école, c'est en option dans ton agenda?
J'ai 20 minutes de retard, là.
Non, 29, presque 30.
On est des super parents.
On est des super parents.
Ils sont punis, tous les deux.
Mais j'ai rien fait.
Dans ta chambre.
Ils ont la même chambre.
Dans le jardin. Voilà, punis dans le jardin.
La Tribu, votre nouvelle série, lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Allez, notre coup de cœur télé, demain, c'est le grand retour des Pénac. Et oui, après l'énorme succès de l'épisode pilote, il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant, et bien ce retour se faisait attendre. Et c'est avec grand bonheur qu'on va suivre, non pas un épisode, mais 6 épisodes, ce coup-ci pour une première saison complète. Et Julianne Roth est avec nous pour en parler. Bonjour Julianne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va enfin avoir cette suite de ce vrai père et de cette vraie fille à la vie, comme, ouais. comme à l'écran. C'est beau de vous voir tous les deux réunis comme ça dans une série, tous les deux avec Christian.
Ouais. Nous, on s'en rend pas compte, mais il paraît, oui. On nous dit souvent ça, que c'est assez touchant de voir père et fille l'un à côté de l'autre se charrier, s'attendrir. Se découvrir. Nous, on s'en rend pas compte, bah, forcément, c'est comme à la maison, hein.
Oui, et c'est encore mieux quand c'est à couteau tiré, en plus, parce qu'en fait, c'est une réconciliation, c'est l'histoire d'une réconciliation entre un père et sa fille qui va devoir faire avec son père qui, lui, est à la retraite. Mais pas tant que ça. On va le découvrir, évidemment. Et c'est aussi,
ouais,
voilà.
C'est un petit jeu, hein. La réconciliation, elle est petit pas à petit pas.
Ouais, elle est compliquée. C'est ce qu'on va découvrir. C'est pour ça qu'il fallait, après l'épisode pilote, il fallait absolument qu'on ait une suite, quand même. Parce que Annabelle traverse beaucoup de choses dans cette série entre sa dyslexie et tout ce qu'on va découvrir, en tout cas, dans cette première saison. Comment on pourrait la définir, Annabelle, tiens, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode pilote, par exemple?
Vous avez dit, pour moi, le mot-clé, elle est dyslexique, elle le dissimule, elle contourne les difficultés et donc ça fait partie de son petit secret, ça la rend singulière, ça la rend très efficace à certains endroits, beaucoup moins à d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est une maman aimante qui élève ses enfants pratiquement seule, c'est quelqu'un qui est très consciencieux dans son travail. Elle est attachante avec, toujours, hein, quand on a des défauts, de toute façon, on a tous des défauts. Quand on a des défauts, on est attachant et elle l'est avec ce handicap qui est le plus possible caché. Voilà.
Et vous allez voir que Annabelle, en ce début de saison, est aussi très très sportive. Ça commence par une course-poursuite effrénée auquel elle a même du mal à retrouver son souffle, mais en tout cas, je peux vous dire que celui après qui elle court, il va passer un sale quart d'heure.
Oui, c'est, ils ont appris quand ils étaient en train d'écrire la saison 1, les auteurs ont appris que je cours et ils se sont dit que c'était une des choses qu'il fallait utiliser pour la série. Et donc oui, il y a pas mal de séquences de course.
Alors on va découvrir un meurtre, évidemment, comme toute enquête, hein, évidemment.
Enquête, bah oui.
Et puis le jeune homme, la victime en fait est bien connue d'Hannibal, qui est joué par Christian, justement Christian Roth. Et ça va compliquer un peu évidemment l'histoire, parce que lui va vouloir s'immiscer à nouveau dans ses affaires, hein, évidemment.
Et voilà, il rentre par la fenêtre ou il rentre par la cheminée, mais il rentre toujours dans les enquêtes. Effectivement, ça modifie un peu normalement les enquêtes doivent être un peu bordées, mais avec lui, ça déborde. C'est toujours comme ça. Et encore plus avec un lien très affectif, une émotion particulière dans cette histoire parce que c'est quelqu'un qui compte énormément dans sa vie et donc mais c'est assez beau. Il y a un bon équilibre parce que comme il est très touché personnellement par ce meurtre, mais il a effectivement besoin de s'appuyer sur sa fille. Ça modifie un tout petit peu la balance.
Ça crée des complications ou pas? Au contraire, ou c'était un rêve depuis longtemps de pouvoir jouer tous les deux et encore plus maintenant dans une série, donc avec une histoire qui va se développer peut-être encore au fil des saisons, de jouer avec son papa, tout simplement. Ou est-ce que c'est plus facile ou est-ce que ça l'est moins?
Moi, je trouve que c'est que des atouts. Le moment où c'était un tout petit peu, où ça a demandé une réflexion, c'était le moment des essais, parce que il fallait, c'était le moment où on s'est vraiment penché sur, OK, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire une vie au quotidien, et des discussions artistiques plus ou moins, faciles à tenir. C'était aussi se découvrir dans le travail. On n'avait jamais travaillé ensemble, comme ça, sur un aussi bon projet. Donc, c'est toutes ces questions-là, on se les a posées avant. Et puis une fois qu'on y était, une fois qu'on a décidé que c'était vraiment une chance, on l'a vécu comme une chance. Et c'était plutôt que des atouts dans le travail.
Alors malgré tout, on connaît Christian Roth, comédien, depuis plus de 35 ans, hein, entre Navarro, Père et Mère. Il a marqué évidemment toute notre époque. À nous, on a grandi avec lui, hein, je dirais même les quarantenaires. Ouais. C'est lui qui a transmis ce virus, en tout cas, de la comédie pour vous?
Alors, quand j'étais enfant, je vais faire une réponse qui va moyennement répondre, mais quand j'étais enfant, mon père, il faisait pas du tout de télé, donc il faisait que du théâtre. Donc, le virus du théâtre, oui, je pense qu'il me l'a très clairement transmis, parce qu'il avait une compagnie, il montait des textes contemporains, il avait vraiment un parcours qui était hyper beau. Après, non, son rapport au cinéma, il était pas dans ma vie quand j'étais petite, donc ça n'a pas... J'étais cinéphile, j'aimais le cinéma, mais vraiment c'était. En plus, mes parents nous ont vraiment, on est cinq enfants et ils nous ont beaucoup préservé de leur vie professionnelle. Ma mère est musicienne, ils avaient envie qu'on ait des vies d'enfants. Moi-même, j'ai été surprise en fait. Ça n'avais pas vraiment imaginé que j'irais dans les pas de mon père.
Alors, on va découvrir 6 enquêtes inédites. Est-ce que dans cette première saison, en tout cas, est-ce qu'il y a un moment un peu particulier qui a été drôle à tourner ou une scène qui a dû être faite plusieurs fois parce qu'il y a eu des fous rires quelque chose de plutôt positif à nous raconter?
J'ai plus là tout de suite le souvenir évident de... Si, c'est très drôle pour moi parce que mon père, quand il est grognon, il est très très drôle. Mais ça, vous l'avez déjà repéré, les spectateurs le connaissent.
C'est ça.
Donc oui, c'était des grosses journées, on travaillait, le rythme était quand même vraiment très soutenu. On tournait à Montpellier et je pense qu'il y a eu la météo, la pire météo de fin de saison à Montpellier depuis très longtemps. Donc on était sous la flotte. Il y a eu des journées un peu apocalyptiques et j'avoue, ce genre de moment on pourrait être désespéré quand j'ai à côté de moi mon papa qui d'un seul coup ne dit même plus de mots et grogne. J'avoue que c'est des bons fous rires, mais après des anecdotes précises de scènes.
Ça s'en est déjà bien. C'est déjà pas mal.
Ah oui, là, je vous confirme.
Bon, on va découvrir en tout cas cette première saison inédite. Est-ce que déjà une saison 2 est sur les rangs ou pas?
On n'en a aucune idée, on ne sait pas. Je pense qu'il y a la question de la rencontre avec le public. Ça va jouer dans un sens ou dans l'autre. Non, ça, on n'est pas du tout au courant.
Bon, c'est demain soir la rencontre avec le public, en tout cas à 21h10 sur France 3. On vous espère évidemment le même succès qu'avec l'épisode pilote qui avait fait un véritable carton. Donc nul doute qu'on aura une suite, en tout cas on espère. On embrasse très fort Christian en même temps par votre intermédiaire, Juliane. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle aussi qu'à la production, Caroline Lassa et Thomas de Mathéis pour cette série inédite et cette première saison en tout cas qu'on va découvrir demain soir 21h10. C'est 2 premiers épisodes et on va se quitter avec la bande-annonce. Merci beaucoup Juliane. À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Inédit, mardi sur France 3.
Qu'est-ce que tu fous là, toi?
Bah, alerte dans les montres.
Il était un père absent, il est devenu trop présent.
Depuis qu'il est revenu dans les parages, je suis exactement au stade de ma dyslexie, de mes 13 ans. Il faut qu'il disparaisse de ma vie.
On ne choisit pas ses parents.
Tu vois quelque chose?
Et toi?
Mais la police est une grande famille.
Ici Pélac, on y va. Je ne veux pas que tu mentionnes notre lien de parenté.
T'as honte de ton père?
Ta vie, ton œuvre, tes petites blagounettes, je veux pas en entendre parler. C'est clair?
Oui, limpide.
Inédit, les Pénacs, tel père, telle fille, tel flic. Mardi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
Allez, vous avez découvert la semaine dernière tout cela, je te le donnerai, nouvelle série événement de France 2. Eh bien, on va continuer à en parler avec Nicole Calfan, qu'on a grand plaisir à recevoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, je suis particulièrement fier parce que moi je vous suis depuis très longtemps et je suis très heureux de vous retrouver ici dans ce rôle de matriarche dur, impitoyable et qui essaye de mener son clan de main de fer.
Ah, et c'est un personnage horrible puisqu'elle est raciste, très homophobe, on le sait depuis la première scène. Elle vit dans un monde qui n'est plus du tout dans la réalité. Elle veut maintenir, elle veut garder sa tête hors de l'eau et garder tous les privilèges qui vont s'en aller... s'effondrer petit à petit. Et j'étais ravie qu'on propose ce rôle parce que c'est tellement plus intéressant de jouer des personnages à contre-emploi de ce qu'on est dans la vie aussi et de ce qu'on a l'habitude de jouer.
Alors, en plus, elle va tellement en apprendre sur son fils parce que si le ciel tombe sur la tête de Manuel, le ciel tombe sur la tête de toute la famille aussi à la suite de son décès dans l'accident de voiture. Donc, elle va découvrir aussi une facette de son fils qu'elle ne soupçonnait pas et va tenter malgré tout de garder cette tête haute après la perte de son fils.
Oui, elle continue à mener son monde, que ce soit les domestiques, elle parle comme ça, les domestiques, les gens, ces gens. Comme
Annie Grégorio, quoi.
C'est ça, qui est formidable dans le film, d'ailleurs, je tiens à le souligner. Elle est assez impitoyable. Bon, la seule chose qui va la racheter, mais j'en parlerai pas, évidemment, clairement, c'est qu'elle a une faille, elle aussi, et une blessure terrible.
Qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes.
Qu'on va découvrir au fur et à mesure. Heureusement, ça la rachète. Ça explique son comportement. Mais ce personnage, toujours en noir, toujours droite, qui n'est pas une femme coquette, qui est une femme en même temps, qui a été une femme très soumise, et qui, à son tour, veut soumettre les autres. Personnage magnifique.
Les scènes avec Louise Monod aussi, hein, c'est même sa belle-fille, hein, elle prend pour son grade.
Oui, non, personne n'a grâce à ses yeux. Et donc, c'est très beau de pouvoir construire un personnage et de faire oublier la dureté et que le travail apparaisse derrière. C'est-à-dire que quand on joue des rôles durs comme ça, on se dit « Ah oh là là, c'est bien, faut le faire ». Donc ça fait plaisir, quoi.
C'est ce qui est le plus jouissif pour une comédienne, d'avoir des rôles comme ça, quand ils nous tombent dessus dans une carrière?
C'est merveilleux parce que... on n'a pas l'habitude. Moi, j'adore me déplacer, j'adore passer de au théâtre des monologues du vagin à une pièce de Laurent Baffy. Mais à l'image, c'est plus rare qu'on vous offre des personnages légers puis d'un seul coup très très durs. Donc, faut sauter sur ces personnages. Il faut oublier son physique, faut pas essayer d'être belle. Moi, j'ai dit, je veux surtout pas de rouge à lèvres jamais. Je voulais être vraiment grise, quoi.
Et pour être impitoyable, justement, c'est vraiment le premier mot qui m'est venu à l'idée quand j'ai vu ce personnage. Il y a un souvenir de tournage particulier à nous raconter.
Le violoncelle. Est-ce que vous avez assisté aux scènes de violoncelle? J'étais incapable de sortir une note de violoncelle. Donc j'ai un professeur qui a été merveilleux. J'ai une doublure. Et puis je me suis dit, après tout, quand on m'a engagée, j'étais pas violoncelliste. Donc c'est pas grave.
C'est sûr, hein. Ça c'est comme quand on joue un rôle de cuisinier, même si on sait pas faire la cuisine, quand on est comédien, on sait tout interpréter.
C'est pas grave. Et j'ai un professeur de violoncelle génial, une doublure formidable, et j'ai très très peu égratigné le violoncelle.
Le casting autour de vous, Nicole, est juste dingue. C'est fou. David Kamenos, Aurélien Vic, Louise Mono. Il y a tous les ingrédients aussi à la fois d'une saga d'été. Vous qu'en avez fait comme les grandes marées, justement, du côté de la Charente-Maritime avec Bernard Lecoq. Il y a vraiment tous ces ingrédients.
C'est vrai que depuis les grandes marées, je sais pas si vous vous souvenez du casting des grandes marées, mais c'était incroyable. Je vais pas vous les citer maintenant parce que c'est trop long. C'était que des gens brillantissimes. Tous les personnages étaient tellement vrais, égaux, etc. Une troupe. Et là, j'ai retrouvé ce sentiment-là. Et c'est vrai que quand je voyais Nicolas Guichetot nous diriger, 30 ans après, c'est pas peur de mon âge, donc 30 ans après, je retrouvais Jean Sagol, c'est-à-dire l'invention, la douceur, le talent, et je me projetais dans ces années-là. Donc une saga, mais qui a évolué avec le temps, qui est maintenant très très moderne.
C'est une histoire très moderne, oui, on le disait, parce qu'avec le mariage pour tous, etc., c'est une histoire très moderne et on est dedans aujourd'hui. Et tous ces dilemmes familiaux qui vont se créer entre les familles recomposées, parce qu'on parle du mariage pour tous, c'est aussi le sujet du film, mais les familles recomposées aussi, hein, comment on va arriver à disséquer les histoires d'héritage, les histoires, les surprises qui vont arriver dans les familles et qui vont littéralement les faire exploser. Parce que c'est ça aussi, on parle de l'explosion d'une famille en quelque sorte.
Et tout est lié aussi, il faut le dire, autour de l'argent. Donc c'est ça qui pourrit la situation et qui pourrit tous les gens de cette série, enfin la famille, c'est qu'ils veulent garder leurs biens. C'est assez redoutable. Alors on est dans Zola, là.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Tout cela, je te le donnerai la suite. C'est cette semaine sur France 2. On va découvrir les épisodes 3 et 4 et on va découvrir au fur et à mesure les failles de ce personnage justement que vous incarnez dans cette mini-série. Merci, à bientôt Nicole.
Merci à vous.
Votre mari a été victime d'un accident de la route.
Et sans votre signature, plus rien ne peut se faire.
On se laissera pas spolier.
On sait que quelqu'un accusé de meurtre et voulait le faire chanter.
Je suis absolument certain qu'on l'a assassiné, comme son petit frère Enguerrand avant lui.
J'ai été pris pour cible dans la nuit.
Tu penses que c'est quelqu'un du domaine?
Quelle saloperie vous voulez me mettre sur le dos, là?
Anthony Laville, sa tante a déclaré sa disparition il y a 5 jours à la gendarmerie.
Ça fait une putain de semaine que tu réponds pas.
T'envoie la liste des appels qui ont été récupérés, identifiés sur la deuxième ligne du téléphone d'Amérique.
13h07, Providence.
Je sais qu'il y a été pensionnaire, mais il pourrait y avoir une autre raison.
Le marquis Arsène, votre beau-père, en a acquis la totalité il y a une trentaine d'années.
Faut que tu rencontres Brigitte, la mère d'Alexia. Elle travaillait encore à Providence à cette époque.
On vient de retrouver le corps d'Anthony Laville. Tu crois qu'Amérique aurait pu le tuer?
Allez, on va parler de Danse avec les Stars qui revient très très prochainement sur TF1 pour notre plus grand plaisir et pour une 12e saison inédite avec Jordan Moïrak qui est avec nous. Bonjour Jordan.
Bonjour, bonjour à toi.
Merci d'être avec nous. Comment t'es arrivé déjà dans cette émission? Quel est ton parcours pour que tu en sois arrivé justement à être pris dans Danse avec les Stars?
Alors je vais raconter tout mon parcours.
Oh bah oui, vas-y.
Voilà, je vais être très bref. Donc moi j'ai commencé, je faisais du football, je faisais de la boxe. Et en parallèle, ma mère m'a amené un cours de danse. Et en fait, moi j'ai fait de la danse, c'était plutôt pour attirer les filles. Donc voilà, je voulais tomber amoureux d'une fille, etc. Donc j'ai dit, allez, je vais faire de la danse, je vais essayer de l'impressionner. Donc c'était pour les filles. Et en fait, je suis tombé amoureux de la danse et pas de la fille. Donc du coup, c'est très drôle. Mais après, voilà, j'ai commencé à 4 mois après mes premières compétitions et j'ai commencé à gagner 1, 2, 3 compétitions. Et de là, je suis vraiment tombé amoureux de la compétition, de la danse sportive. J'en ai fait une dizaine d'années. Donc suite à cette dizaine d'années, ben, après j'ai été plusieurs fois champion de France en salsa parce que je suis aussi danseur latino. Ça, j'ai fait les Jeux Olympiques en salsa. Et de par la suite, en fait, il y a Danse avec les Stars, du coup la production de Danse avec les Stars. Julien Chaperot qui m'appelle pour justement être casté parce qu'il aimait bien mon profil, etc. Donc je vais faire les castings de Danse avec les Stars. Ça s'est très bien passé. Du coup, ils m'ont appelé et puis... Puis voilà, après l'aventure a commencé pour moi à danser avec les stars. Et j'en suis encore là aujourd'hui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, oui, j'ai dansé avec Bilal Hassani. C'était ma plus grosse performance, on va dire, de toutes mes émissions. Là où on est allé plus loin, on était à 2% de gagner contre Taïk et Fov, nos gros concurrents de cette saison-là. Et du coup, voilà, c'était vraiment une grosse partie de plaisir. Bilal avait énormément de choses à raconter. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu et beaucoup de choses à raconter. Donc, pour moi, il y avait une grosse facilité à créer des chorés avec toutes ces histoires, le harcèlement scolaire, l'homme, la femme, la proximité avec lui. Il y avait tellement d'histoires. Donc, pour moi, c'était plus évident à raconter de belles histoires et à toucher les gens et à toucher les téléspectateurs, en tout cas.
Danser avec les stars, aujourd'hui, c'est les danseurs, les stars. Tu t'en es rendu compte assez vite de ça, de la popularité qu'amenait cette émission où, à la base, les danseurs étaient inconnus. Alors qu'aujourd'hui, bah, évidemment, Maxime, Fauve, Katrina, tout le monde aujourd'hui vous connaît. Et peut-être même plus que certaines stars qui viennent dans l'émission. C'est ça qui est dingue.
C'est ça. Après, moi, je me considère pas comme une star. Je me considère comme un danseur que j'étais auparavant. Et aujourd'hui, je suis très content d'être toujours rappelé pour l'émission et faire partie justement des danseurs de l'émission, d'être dans les piliers des danseurs. Donc ça, je suis très content. Pour moi, c'est vraiment une partie de plaisir parce que ça reflète vraiment ce que je veux. Je veux danser et ça respecte vraiment ma danse, c'est le style que je veux. Et donc aujourd'hui, oui, voilà, nous, on revient chaque année. Donc chaque année, les téléspectateurs nous repèrent, nous voient, et du coup, on est Danse avec les stars m'a apporté énormément de sollicitations et de visibilité. Donc on m'appelle pour faire des stages à droite, à gauche. Ça m'a énormément apporté. Danse avec les stars, c'est vraiment un tremplin de vie pour tous les danseurs qui le font. Et donc très ravi, très content. Aujourd'hui, je suis prêt à partir dans toute la France, c'est ce que je fais déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler moi si vous voulez des stages, je suis sur Instagram. Donc
bon, et puis il va y avoir Dépendance aussi hein, avec une grande tournée après Danse avec les stars, on va en parler dans un instant. Alors Jordan, même si on sait aujourd'hui que tu vas danser avec Christina Cordula pour cette 11e saison, quelle serait la star ultime avec qui tu rêverais de fouler le parquet? Alors ça peut être un rêve inaccessible hein, attention aussi hein, genre américain, n'importe hein.
Alors si c'est, on est dans le rêve inaccessible, c'est sûr, on en a tous. Moi, j'irais du coup plus dans l'international. Donc, j'irais plus pencher sur Alicia Keys parce que j'ai toujours été fan de cette artiste. Et je sais que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Elle a pas besoin de promotion. Du coup, voilà, moi, ce serait Alicia Keys, évidemment.
Bon. Des beaux moments dans Danse avec les stars. Pour toi, lesquels tu retiendrais vraiment en priorité là maintenant aujourd'hui?
Bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, l'expérience avec Bilal Hassani. Au tout début, on me proposait de danser avec un homme. J'ai même pas réfléchi parce que je l'avais casté sur l'émission avant. Et ça s'est de suite fait. En 5 minutes, j'ai su que c'était avec lui que j'allais vraiment passer du bon temps sur l'émission et franchement faire beaucoup de belles choses en fait à présenter aux téléspectateurs. Donc toute cette saison là, ça a été vraiment un pur kiff pour moi. Après, ce qui est bien dans cette émission Danse avec les stars, c'est que peu importe la célébrité que tu as en face, nous on a un rôle, c'est d'en faire quelque chose. Peu importe le niveau, peu importe la situation, peu importe même s'il y a des handicaps ou quoi, nous on a un rôle, c'est de la faire progresser. Du coup, voilà, on a quelque chose d'intéressant, donc c'est à nous d'être bons en tant que chorégraphe et aussi psychologiquement, on doit être là, on doit être présent, être à l'écoute énormément de la personne qui est en face pour justement que ça se passe super bien et l'amener le plus loin possible.
Les projets, Dépendance, avec une grande tournée partout en France en 2024 après Danse avec les stars justement. Là, tu vas retrouver tous les copains un peu de la troupe, hein. Je pense à Catherine Patchette, à Maxime de Remez notamment.
Oui, donc justement, notamment Maxime de Remez qui lui est le directeur artistique de Dépendance. Donc là, on avait fait une tournée qui a duré longtemps à cause du Covid. Ça faisait 4 ans qu'on tournait. Ça nous a perturbé un petit peu. Donc maintenant, on est en train de créer. On va créer un nouveau show, un nouveau spectacle qui vraiment va être super intéressant. Va être beaucoup plus riche que ceux d'avant parce qu'il va y avoir des artistes, des intervenants extérieurs, que ce soit des chanteurs connus, tout ça, qui vont être avec nous. Donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est la surprise. Je veux pas tout dévoiler. Donc on vous attend en 2024 après l'émission Danse avec les stars, c'est-à-dire en avril, fin avril 2024, notre tournée commence avec notre nouveau show Dépendance.
Réservez vos places, voilà ce qu'on peut dire.
Réservez vos places, bien sûr, ça va être vraiment sublime.
À l'instar d'Anthony Colette, est-ce que t'aimerais, est-ce que t'as des rêves là-dessus aussi peut-être pour devenir comédien, faire aussi de la comédie, faire d'autres choses, chanter?
Oui, Anthony a fait de la comédie, oui, sur Demain nous appartient. Tout ce qui est extérieur à la danse, pour moi, c'est vraiment secondaire. C'est vraiment secondaire, je suis vraiment danseur depuis longtemps et j'ai toujours eu cette magie à travers la danse qui me palpite en moi, qui est dans mes veines. Je priorise la danse dans un premier temps. Si un jour des appels viennent à moi et pour être acteur ou quoi que ce soit, je le ferai, je travaillerai dessus et j'y réfléchirai deux fois et puis après on verra, hein, on sait jamais ce quoi est fait demain.
Merci beaucoup en tout cas Jordan d'avoir été avec nous. On rappelle que c'est le lancement de cette nouvelle saison inédite de Danse avec les stars avec plein évidemment de surprises qui nous attendent. À très vite et merci.
À très vite, merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, voici les danseurs professionnels de la 13e saison de Danse avec les Stars. Candice Pascal. Inès Vandard. Adrien Camille. Yann Alric Mortreuil. Maxime Doremel. Christophe Licata. Jordan Bouillérac. Christian Millette. Elsa Bois. Et Anthony Collette.
Allez, on va faire un petit retour également en exclu podcast sur Destination X. La finale, c'était la semaine dernière, remportée par Hélène, qui est la grande gagnante de cette première saison et qui a gagné 50 000 euros, mine de rien, en allant retrouver à la Destination X. Eh bien, Philippe Basse, qui l'attendait dans une belle maison qui surplombait Athènes. Franchement, mais quelle aventure, Hélène. Merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Et oui, quelle aventure de folie pendant tout ce mois. C'était juste incroyable. Il était bien caché, notre Philippe. Et il était bien aussi.
C'est clair. Alors, vous étiez au départ de l'aventure 10 passagers. Salomé a rejoint l'aventure même en cours en tant que 11e passager. Elle n'aura pas fait long feu, hein, il faut dire. Ouais. Mais alors, par contre, ce trio de finale avec Angie et Amine, c'était incroyable tous les trois. Puis c'était beau, c'est aussi de voir votre solidarité, même s'il y avait l'esprit de compétition. Il y a eu quand même une vraie amitié qui s'est créée aussi entre vous.
Ah, mais carrément, en fait. Mais déjà... On a la balle, on est tous des sportifs, tous des compétiteurs, on est tous dans le jeu à fond. Quand on jouait, c'était vraiment chacun pour soi et on voulait tous gagner. Par contre, voilà, le soir ou quand le bus s'arrêtait ou autre, c'était une colonie de vacances entre nous et on profitait vraiment, vraiment comme des copains en fait. Et ça, on a réussi à le garder jusqu'au bout, jusqu'à ce que Amine et moi, on soit tous les deux à Athènes et devant le Parthénon, on avait encore cet état d'esprit bienveillant l'un envers l'autre.
Alors on va revenir sur la première étape qui était Pise. Alors là on s'attendait ni les uns ni les autres à vous retrouver en Italie parce qu'on a tous cru évidemment que le bus était monté pour le coup sur un ferry et vous avez emmené peut-être en Espagne ou même en Corse. On a tous cru à un moment donné que vous partiez en Corse. Et puis après il y a eu cette arrivée à Pula qui vous a tous trompé puisque vous avez juste vu apparaître un peu ce qui aurait pu faire penser au Colisée de Rome. Donc beaucoup d'entre vous se sont placés très loin en tout cas de cette destination qui vous a emmené ensuite en Slovénie pour redescendre à Venise. Enfin, c'était dingue, c'était un truc à vous faire tourner la tête dans tous les sens. Hein.
Mais c'est ça en fait. Et mais clairement, le bus tournait en rond des fois. On se dit, mais on nous enferme, on roule pendant 10 heures pour revenir au même endroit. Quoi. Pour alors nous faire croire qu'on est toujours en Italie, c'était cohérent par rapport au temps de route, c'était pas cohérent par rapport à ce qu'on avait vu. Mais à un moment, le cerveau ne comprend plus rien, on se raccroche à des toutes petites choses, des petits détails insignifiants et qui le sont pas, on ne sait pas vraiment. Et tout ça pour revenir d'un autre côté et être au même endroit qu'on était au départ, quoi.
Alors le pire quand même, c'est quand on vous a fait prendre le train et pour vous faire revenir au château autrichien. Enfin, ça a été mais juste à Innsbruck, c'était totalement dingue. On s'y attendait pas ni les uns ni les autres, hein.
Mais complètement, mais comment on peut imaginer, et alors c'est en voyant la deuxième partie de l'émission que moi je découvre aussi, comment on pouvait comprendre, enfin dites-vous que nous les pions d'échecs dans le train, on s'est cassé la tête à chercher le sens des pions, les mouvements possibles de chaque pion, pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient là ces pions. Jamais on s'est dit, les pions ils sont là parce qu'ils étaient là-bas, le code à l'envers, les chansons, le blind test à l'envers, il fallait vraiment penser, on fait une marche arrière et on revient sur nos pas, et c'était impensable et improbable.
Et votre mari a bien joué le jeu hein, au château hein.
Ah là là, ouais, je pense qu'il savait à quel point je voulais gagner, il savait à quel point c'était important pour moi. Après c'est une pression énorme qu'on met sur les proches qui viennent nous aider. Parce que et c'est une pression qu'ils se mettent aussi. Ils voient à quel point on en est encore dans l'aventure. Ils voient qu'on est cinquième, qu'on a fait un bon bout de chemin. Ils se disent mais c'est pas moi qui peux la planter, donc je dois réussir. Et du coup il y a une pression énorme pour lui en fait.
À quel moment, là maintenant, vous avez vu tous les épisodes vous aussi monter, pour le coup, et de la façon que nous, on les a perçus aussi, vous avez été le plus loin de la vérité?
À quel moment j'ai été le plus loin de la vérité? J'ai fait une grosse erreur quand je... Et pourtant, quand j'avais gagné lundi, c'est que j'avais eu accès à la loge panoramique où j'avais pu parler avec Gabriel, le géocatcheur.
Oui.
Il nous dit clairement, vous êtes à l'ouest de la Slovénie. Et en fait, le type est très clair, très sûr de lui, il n'y a aucun doute. Et là, je me vois dans mon cocon dire, Gabriel m'a dit ouest, donc je me mets à l'ouest. Et c'est tout, parce que de toute façon, je ne le sais pas. Et je me vois mettre mon doigt et je comprends que je me mets à l'opposé, en fait. J'ai inversé mes deux points cardinaux. Là, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Moi, en tout cas. Après, me faire leurrer, je me suis fait leurrer, mais comme d'autres. Mais cette erreur-là, je m'en suis un petit peu voulu quand même, parce qu'elle était énorme et j'ai eu chaud. Et là, je pense que j'ai eu un gros coup de chance, en fait.
Il y a eu un peu aussi cette histoire de Trois Mousquetaires avec Franck et Angie. Hein. Vous avez été tous les trois très, très unis, en tout cas, dans cette aventure aussi.
Ouais, non, on était vraiment un bon trio, on fonctionnait bien. Et puis, les cartes étaient rebattues à chaque fois. Je veux dire, au début, je suis beaucoup plus proche de Julie. Angie est plus proche de Lauriana. Lauriana va partir vite. Julie va partir la seconde semaine. Ben voilà, forcément, à un moment, on se retrouve avec Angie. On est les deux filles qui restent. Les garçons veulent faire leur choc des titans en finale. Ben, faut qu'on s'accroche, hein, si on veut. Nous aussi, on veut notre place en finale. Donc on est obligé de revoir aussi un peu nos alliances au fur et à mesure de l'avancement du jeu.
Et là, on était totalement, pour le coup, pour cette finale mardi dernier avec vous, Hélène. C'est à ce moment du X électrique, quoi. Et on se dit, et là, moi, je me souviens encore être derrière mon téléviseur en train de me dire, mais il faut qu'elle arrête de trembler, il faut qu'elle y arrive. Et de voir Amine arriver derrière, et puis encore peut-être plus stressée que vous. Et finalement, à un moment donné, on voit l'anneau qui redescend. On se dit, ça y est, Hélène est devant, quoi.
Mais dites-vous que quand moi j'arrive et que je vois que ce dernier jeu c'est le X, dans mon cerveau à ce moment-là, c'est ça y est, tu as perdu, c'est fini. Parce qu'en fait, ce jeu-là, quand on l'a vu dans la carrière de marbre, moi je n'avais pas su le finir et Amine l'avait gagné en premier. Moi j'étais avec les six autres passagers à ne jamais l'avoir fini et Amine l'avait terminé, Julien deuxième, Franck troisième. Je l'avais jamais terminé. Donc là, moi je me dis, mais ça y est, en fait, tu viens de perdre, c'est fini, tu n'y arriveras pas. Et lui, tellement se maîtriser, il a un tel contrôle que t'as aucune chance. Jamais je me suis dit tu peux y arriver, et lui y arriver plus tard que toi, ça a jamais été un scénario envisageable dans ma tête, ça.
Angie et Amine étaient vraiment les deux concurrents les plus redoutables pour vous?
Julien était très très fort aussi, hein.
Ouais, c'est clair.
Franchement, Julien était très très fort, et la force de Julien, c'était, je sais pas ce qu'il avait, il avait un sixième sens ou je sais pas, ou une déduction, où il se cassait le cerveau, il s'arrêtait jamais.
Elle vous a super bien dirigé, en tout cas, dans Athènes.
Hein. Alors là, c'est son métier. Il a su s'adapter à mon cerveau, à moi. Parce qu'on le voit pas, malheureusement, ça a été coupé à la télé. Mais quand il commence à me parler au début, il me dit, bon, t'as le Parthénon face à toi, tu vas prendre 60 degrés nord-ouest. Et là, je lui dis, hop, tu me parles pas comme ça. Ça va pas le faire. Stop. Tu me prends gauche, droite, voie ferrée, église,
des
éléments
simples.
Concrets, un arbre, etc. Des trucs simples. Et là, à partir de là, il m'a parlé. Et pour l'anecdote, je me souviens qu'à un moment, et moi, quand on me parle, j'écoute. Voilà, et je lui faisais une confiance totale. Et pour l'anecdote, à un moment, mon caméraman qui me suivait en courant me dit, est-ce que là, tu sais où tu vas? Et je lui dis non. Et il dit, ça te gêne pas? Bah non. Julien, il m'a dit de courir, alors je cours. Et c'est là où on a été excellent avec Julien, c'est que je lui faisais une confiance aveugle. Il savait me parler. Il me disait ce que je devais voir et je lui disais ce que je voyais. Donc en fait, j'étais ses yeux et il était mon orientation. Et on a tellement bien communiqué que c'était très limpide là-dessus pour nous, en tout cas.
Et ce qui a été d'ailleurs aussi certainement décisif, c'est qu'il a eu le côté très malin d'anticiper éventuellement cette coupure de 3 minutes entre vous et de vous dire où il fallait que vous dirigiez justement pour continuer à avancer, même si vous étiez coupé 3 minutes ensemble. Ça, c'était dingue aussi.
En fait, je me rends compte chez cet antiquaire que Amine et moi, on est l'un sur l'autre. Donc en fait, il va le voir, je vais le voir, ou inversement. Donc on peut pas y arriver, ça peut pas aller. Et quand Julien me dit, écoute, on va gagner du temps, je vais commencer à te dire où tu dois courir. C'est là où j'ai un flash, je dis attends, là j'ai une idée. C'est une coupure micro qu'on va avoir. C'est pas moi qui suis frisé, c'est pas moi qui suis gelé et qui doit arrêter de marcher. C'est juste une coupure micro. Et ça, on peut la gérer. Je dis donc, dis-moi, vas-y, donne-moi des éléments que je cours, dis-moi et je m'en vais en fait. Et on tente un coup de poker. Et l'erreur qu'on a faite, c'est, je pense, soit j'ai pas assez écouté ces éléments, soit j'ai couru trop vite, mais je me suis quand même retrouvée immobile 1 minute 30. Mais c'est pas grave, c'était super ce moment-là et cette idée-là, elle était géniale en fait.
Ah oui, ça c'est clair. Et puis après, bah, on se retrouve dans cette sublime vie-là où normalement est censé vous attendre Philippe, mais non, ça ne s'arrête pas là et c'est encore pas fini. Il va falloir classer les étapes. Alors évidemment, nous derrière notre télé, on les connaissait les étapes, on savait que Venise était après la Slovénie et voilà. Mais vous au départ, vous placez un peu justement ces décors et nous on est derrière la télé. Mais non, Hélène, tu te trompes.
Déjà, moi, Poula, je connaissais pas. Donc, cette étape-là, dans ma tête, elle a jamais existé. Pourtant, je sais que j'étais en Croatie, mais le Colisée de Poula, je ne le connais pas. Tout le monde, je ne sais pas où est sortie Lauriana, mais en tout cas, à ce moment-là, on est 7 sur 9 dans le bus à avoir mis Rome. Moi, je me suis juste mis 100 km dessus en disant, c'est pas cohérent, je vais jouer un coup du sort, on verra bien. Donc, tout le monde, c'est le Colisée de Rome, et c'était pas cohérent par rapport à la direction du bus. Le lac de Bled, je ne connais pas non plus. Cette vue magnifique, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas vue, là où Julie est sortie. Donc en fait, remettre dans l'ordre les éléments qu'on n'a pas vus, par déduction, bon courage en fait. Avec le stress et la pression, savoir de combien de temps je devance Amine, voilà quoi. Innsbruck jour, Innsbruck nuit, la fête de la bière, Venise, Pise, c'est des choses que j'avais. J'avais encore mon village italien, j'avais Poula, j'avais Bled. Je ne les avais pas, ces photos-là, en fait. Donc, il fallait réussir à les retrouver.
En tout cas, merci, Hélène, de nous avoir fait vivre cette aventure unique, que ce soit pour vous, mais aussi pour nous, téléspectateurs, parce que ça a été aussi ça, le côté unique de ce programme. C'est que vous avez certainement vécu une aventure unique, mais que nous, on l'a vécu aussi de façon très, très unique, parce qu'on a joué avec vous en essayant de deviner à chaque fin d'épisode où c'est vous vous trouviez. Et c'était vraiment très, très chouette à vivre. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Pour terminer, qu'est-ce que vous allez retenir, en tout cas, de cette aventure? J'imagine les fous rires, les moments que vous avez passés dans le bus avec tous les copains avec lesquels vous êtes peut-être restés encore en contact aujourd'hui.
Exactement. En fait, là, il y a un beau groupe de 10 copains qui s'est créé. Là, au moment où je vous parle, en fait, on est en train de se mettre d'accord sur le groupe WhatsApp pour notre prochain week-end du côté de chez Julien et Julie, si vous voulez tout savoir.
Ah, c'est génial.
Donc, on s'est déjà revus 2 fois pour ma part. Il y en a 3 fois parce que Julien et Julie habitent assez proches l'un de l'autre. Maxime m'a fait la surprise de débarquer à mon bureau une fois parce qu'il était tout près de la maison, enfin tout près du bureau. Et voilà, il y a une super bande de copains. Et c'est ça que je retiens en fait, c'est que c'est des gens sur qui j'aurais peut-être eu des a priori dans ma vraie vie de tous les jours et avec qui je n'aurais pas sympathisé.
Parce que vous étiez tous différents.
Parce que très différents, mais complètement. Je veux dire, moi, ma vie à moi n'a rien à voir avec la vie de Lauriana qui voyage partout, qui est coach sportive ou d'Amine je ne les aurais peut-être jamais croisés dans la vraie vie. Et en fait, on s'entend tous super bien. On a passé un week-end chez Franck, mais c'était comme dans le bus, c'était pareil.
Eh ben, en tout cas, nous, on a passé de super moments. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous pour revenir sur cette aventure incroyable qui était Destination X, que vous pouvez revivre, même si on vous a tout spoilé, là, en 10 minutes. mais en tout cas, vous pouvez, en tout cas, aller découvrir cette aventure unique encore qui est en ligne sur Sisplay. Voilà, avec Hélène, la grande gagnante de cette aventure, en tout cas, de cette première saison, en espérant que, on nous fera voyager, en tout cas, sur d'autres saisons, parce que nous, ça nous a bien donné envie, en tout cas, d'aller découvrir, la Slovénie, l'Italie, plein d'endroits comme ça, et l'Autriche. Ouais. Et tout ça, ça a l'air magnifique en tout cas. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour tout.
Et à très vite. Merci Hélène.
Merci.
Quelque part sur Terre, à l'abri des regards indiscrets, se prépare un voyage. Un voyage comme vous n'en avez jamais vu. Un voyage qui dépasse l'imagination. Grâce à un bus d'une autre dimension. Un bus capable de vous emmener partout en Europe. À un détail près. Vous ne saurez jamais où vous êtes. Saurez-vous deviner où il vous emmène ?
Allez, l'équipe de Maison de Retraite arrive dans un instant dans Chute, on écoute la télé. Kev Adams, Claude Zidi Junior, Fermine Richard et Anne-Marie Vin débarquent dans Chute, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça sort mercredi dans les salles. Quel bonheur de les avoir avec nous. On va vous faire une spéciale Maison de Retraite 2. On avait soutenu le 1 comme des dingues. Et ben le 2, ils sont là. Ils l'avaient promis. Kev Adams, c'est notre invité. Bonjour Kev.
Salut, bonjour. Merci beaucoup de parler de notre film. Ça fait trop plaisir.
Écoute, tu sais, on était là, on avait fait cette promesse, il y avait une suite, on était là. Et puis, Thomas Gilou a laissé sa place pour ce numéro 2, à celui dont le père, évidemment, parle à tout le monde. C'est le pape de la comédie en France. Et puis, on peut s'apercevoir, en voyant Maison de Retraite 2, que les chiens ne font pas des chats, puisque le talent est là aussi. Claude Zidi Junior est avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Ce film fait un bien fou. J'ai déjà eu l'occasion de le voir deux fois en avant-première. Alors je dois avouer qu'avant sa sortie, les commentaires sont toujours dithyrambiques et le public est conquis. Ce mélange, effectivement, dans ce deux, de venir rassembler les personnes âgées et en même temps les enfants, ce choc des générations fait qu'aujourd'hui, le film, toute la famille vient le voir ensemble. Ça, c'était un pari assez osé et fou.
Écoute, je sais pas s'il est relevé, en tout cas c'était une vraie volonté de notre part. Oui, on a réfléchi le film comme ça, on avait envie que tout le monde puisse en profiter, en famille, les plus jeunes comme les plus âgés. Et c'est vrai que c'est un bonheur aujourd'hui de voir les gens rire ensemble, être émus ensemble aussi. Donc c'est un bonheur pour nous ce film, c'est un vrai hommage à nos anciens, à nos seniors. Et puis évidemment, c'est aussi un grand moment de rigolade et de détente qui dure 1h40. Donc on espère que les gens seront au rendez-vous dans les salles mercredi. Mais c'est déjà une grande joie, effectivement, comme tu l'as très justement dit, d'entendre les commentaires de tous les gens chez qui on a été le présenter en avant-première.
Alors Claude, quand on arrive sur un bateau comme ça, où déjà la moitié des comédiens sont aujourd'hui embarqués dès le 1, quand on arrive sur un bateau comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le 1, on s'imprègne un peu, on essaye de mettre sa patte aussi?
En fait, moi, la première approche que j'ai eue, c'était de poser la question à Kev et au producteur. Qu'est-ce que vous voulez de plus par rapport au 1? Parce que le 1, ils ont eu raison, il a fait 2 millions d'entrées, donc le film est bon. Et moi, le but, c'est qu'est-ce qui vous a manqué peut-être dans le 1? Et on a discuté, on a eu pas mal de dialogues, et le but, en fait, d'après ce que j'ai ressenti, c'était vraiment de faire une proposition de cinéma. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont au cinéma, ils ont l'impression de voir un film de cinéma, et c'est-à-dire d'avoir de l'émotion, de la comédie dans les mêmes scènes. Et ça, c'est ça qui était la force du 1 et qui est encore plus la force du 2, c'est que le spectateur va passer du rire et un peu aux larmes, même dans une seule scène. Et avec ce casting de fou, moi je suis arrivé, il y avait déjà Jean Reno qui était validé. Enfin voilà, donc c'était un conte de fées pour moi de réaliser ça.
Non, mais comment on fait pour avoir Jean Reno dans son film, Kev? C'est un rêve ça.
Ça a été pas simple de le convaincre, c'est quelqu'un de très exigeant évidemment. On a essayé d'être...
le plus juste possible, que ce soit moi ou le reste de l'équipe de production. On a essayé de le convaincre. J'ai été le voir chez lui aux États-Unis pour lui lire ce script et pour lui expliquer aussi ce qu'on voulait en faire. L'idée, c'était surtout de lui expliquer que dans notre film, l'idée, c'est de vraiment mettre en avant les seniors, de montrer une très belle image des seniors, ce qui est malheureusement trop rarement fait en France. Et voilà, on avait envie absolument qu'ils nous rejoignent. Je crois que c'était une envie viscérale, profonde. Ça a pris du temps, mais quand il a décidé de nous rejoindre, il est venu à fond. Et quel bonheur de l'avoir dans le film, quel bonheur de l'avoir en Lorenzo, en patriarche de cette nouvelle maison de retraite. C'est vrai que c'est un rêve de gosse pour moi de tourner avec Jean Reno.
Il y a tout plein de nouveaux comédiens, évidemment, dans cette suite. Vous allez découvrir pourquoi, puisque tu tiens le foyer Lino Vartan, qui accueille, comme à la volonté de Milan, jeunes orphelins et seniors, et qui doit fermer pour raison sanitaire, puisqu'il y a deux têtes à claque qui viennent tout simplement emmerder Milan pour des questions administratives, et vont trouver refuge dans une maison de retraite dans le sud de la France, qui s'appelle le Bel Azur Club. Et c'est là que le paradis commence, mais peut-être pas que. Et on va découvrir aussi que ça va être un peu la guerre des boutons version retraité avec tous ces nouveaux comédiens. Et juste avant d'en parler de ce nouveau casting, moi je voudrais qu'on dédie cette spéciale à deux comédiennes que j'aime particulièrement. C'est Mylène de Mongeau et Marianne Garcia, évidemment, qui étaient là il y a deux ans pour nous parler de ce film. Voilà, qui sont parties. Je suis sûr qu'elles sont fières de cette suite et qu'elles la voient en tout cas d'où elles sont. Mais voilà, je leur dédie en tout cas cette spéciale aujourd'hui, comme tu leur dédies ce film aussi, Kev.
Ouais, je me joins à toi complètement. C'est des femmes d'exception, des actrices d'exception. J'ai eu la chance de croiser leur chemin sur ce premier film, sur Maison de retraite. Je sais que Mylène tenait absolument à ce qu'on fasse une suite. Elle m'en a beaucoup parlé. Elle m'a dit qu'il fallait absolument continuer cette aventure, que c'était important de faire des films comme cela. Et quel honneur de tourner avec Mylène de Mongeau. Et puis, oui, c'est évidemment beaucoup d'émotions, mais beaucoup de fierté de présenter ce film et de lui dédier ce film. Quant à Marianne, c'est une guerrière absolue. Elle était fantastique dans le premier. Elle nous a fait mourir de rire. Elle s'est battue contre la maladie longuement. Et aujourd'hui, c'était impensable pour nous de pas dédier le film à Marianne et à Mylène. C'est au-delà de dédier le film. On fait des scènes vraiment qui leur sont quasi dédiées. Marianne, à travers le personnage de Brahim, qui dit que Léontine lui manque et qu'elle l'a quasiment élevé. Et puis évidemment, il y a toute une scène d'hommage à Mylène de Mongeau que je ne dévoilerai pas. Mais c'était très important, ouais, parce qu'elles font partie pleinement de la famille Maison de Retraite et on avait envie d'oublier personne et surtout pas elle. Donc c'était très très important pour nous qu'elle soit spirituellement avec nous.
Alors le Bel Azur Club a déjà ses pensionnaires sous les traits de Chantal Latsou, qui est à mourir de rire, de Jean Reno. Enfin, ils sont dingues ces pensionnaires et ça va être un peu cette bataille que vont se livrer ces pensionnaires de Lino Vartan et du Bel Azur Club. Et il y a une scène de bataille entre eux, au pistolet, qu'a dû être, mais à mourir de rire, à filmer, Claude.
Oui, ça là-dessus, on savait d'avance que ça allait être un bon challenge, parce que les mettre avec des nerfs, des pistolets, se tirer dessus, ça a duré une journée. Et c'est vrai qu'en fait, le plus drôle, c'est qu'en fait, ils se sont totalement pris au jeu, et on les arrêtait plus, en fait, ils continuaient à se tirer dessus en dehors des prises. En fait, on gérait des enfants de 80 ans. Sur cette séquence et eux ils se sont amusés, ils étaient heureux en fait de retourner un peu en enfance, de jouer à la guerre quoi, enfin pas à la guerre mais à se tirer dessus comme des enfants le font. Non, ils étaient top et nous ça a été une grosse journée à gérer ça.
Avant de recevoir Anne-Marie Vin et Firmin Richard dans quelques instants, Kev, sans absolument rien dévoiler évidemment de la fin, mais alors moi je sens quand même un 3 largement ouvert là dans cette histoire.
Je sais pas, franchement c'est pas dans nos plans, c'est pas prévu aujourd'hui. On s'est tellement éclaté à faire ce 2, on espère déjà qu'il rencontrera le même succès que le premier et ce sera déjà une victoire immense pour nous tous. Et puis ensuite, si on a la chance de continuer cette aventure, on sera évidemment ravis, mais pour l'instant, on se contente d'espérer le succès de ce second opus. Et puis c'est vrai que c'est déjà tellement une chance de faire un 2 que rêver d'un 3 alors qu'on est à quelques jours de la sortie, ce serait presque prétentieux. Donc on va attendre un petit peu, mais pourquoi pas. Effectivement, tout est ouvert pour continuer à vivre cette aventure avec nos seniors préférés.
Milan est un garçon hyper attachant. On peut citer Jarry à ses côtés, évidemment, avec ce lien indéfectible qui les unit tous les deux. Mais c'est un garçon hyper attachant et déterminé. Comme disait Jeune aujourd'hui, il est déter. Voilà, à protéger ses retraités, à protéger ses jeunes orphelins.
Complètement, complètement. C'est la suite de ce personnage que j'avais eu la chance d'interpréter dans le premier. C'est quelqu'un qui est prêt à donner toute sa vie pour ses seniors. Il est le reflet de beaucoup d'aides-soignants que j'ai eu la chance de rencontrer en visitant des maisons de retraite, des EHPAD, des résidences seniors. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'aides-soignants, d'infirmiers qui font un travail de dingue, qui comptent pas leurs heures et qui considèrent leurs résidents comme leur propre famille. Et ouais, c'était important de faire un personnage de Milan qui soit à leur image. L'image de ces aides-soignants sur qui on tape très régulièrement, dès qu'il y a un scandale dans les maisons de retraite, c'est quand même les aides-soignants qui prennent en premier dans la tronche, alors que pour la plupart, en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés, ils font un travail absolument exceptionnel. Alors évidemment, il y en a qui le font pas, il y a des cons partout comme on dit, mais moi ceux que j'ai rencontrés étaient absolument incroyables, donc c'était important pour moi ouais de faire de ces aides-soignants des gens qui soient déterminés à aider leurs résidents.
C'est le film à ne pas manquer, mercredi, Maison de retraite 2. La suite, on va y vivre de belles aventures, de belles émotions. On va y revenir avec Firmin et Anne, qui jouent un peu la méchante justement dans ce film et qui nous régale évidemment de son talent d'actrice incroyable aussi. On en parle avec elle. On va écouter la bande-annonce. Merci Claude, merci Kev d'avoir été avec nous. Et à 2 jours de la sortie du film, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Bah que le public soit au rendez-vous et surtout que le public prenne du plaisir.
C'est surtout ça, que les gens s'éclatent. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est un film de divertissement pour rire, être ému et vibrer en famille.
La bande-annonce Maison de retraite 2 est juste après. Firmin Richard et Anne-Marie va nous rejoindre, à tout de suite.
Cher monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires.
J'ai une grande annonce à vous faire.
Ils vont enfin me couper les cheveux ?
Non ! On part tous en vacances à la mer !
Bienvenue au Bel Azur Club. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo.
Enchanté. Bonjour.
Allez, on continue notre spécial Maison de retraite 2 avec Firmin Richard qui nous a rejoint comme premier. Anne-Marie Vin aussi va arriver d'ici quelques toutes petites minutes. Bonjour Firmin, merci d'être là.
Bonjour.
Et puis Fleurette, évidemment, qu'on retrouve dans ce deuxième opus, toujours au top de sa forme.
Mais Fleurette, effectivement, ne pouvait pas être là. Un deuxième opus qui se fait sur Maison de retraite, Fleurette qui est la pêche, est là, présente et fidèle au poste, oui.
Retrouver tous tes copains de tournage du premier, je pense à Daniel Prévost, je pense voilà, à tous ceux qui étaient là sur le premier.
Retrouver effectivement les survivants du premier, retrouver d'autres amis, d'autres recrutés, retrouver les jeunes. Ah oui, c'était super sympa, j'avais hâte d'être à ce deuxième volet. Une fois que, de toute façon, dès le premier, on avait dit on ferait un deuxième, puisqu'on a vu le succès tout de suite. Et j'étais ravie de retrouver tout ce monde. Et je n'avais pas du tout, dans mes rêves les plus fous, en tant que comédienne, rêvé de travailler un jour avec Jean Reno. Donc, c'est très agréable de retrouver Michel Jonas, avec qui j'ai travaillé déjà sur la première étoile, sur les deux volets de première étoile. C'était extraordinaire. Et Nico Macias, non plus, c'était des gens que je n'arrivais pas de rencontrer dans le monde du cinéma.
Ah, mais il y a un casting assez incroyable dans ce deux. Il y a Marius Luna Espinosa aussi, qui joue le rôle de la fille de Stéphane Debac, hein, qui vous accueille justement dans l'enceinte de ce Bel Azur, qui est peut-être pas si beau que ça. C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du film.
Oh, mais en tout cas, on en profite quand même un bon moment, parce que nous nous retrouvons effectivement dans ce lieu paradisiaque pour les jeunes et les moins jeunes, les adultes et leurs orphelins, parce que chaque adulte aura adopté un orphelin. Il y a un binôme qui se fait, qui est content d'être ensemble. Et on se retrouve dans ce lieu, on est super content. Mais comme la vie n'est pas faite, est faite d'écueil, on se rend compte que finalement, c'est pas si beau que ça, mais ils en ont quand même profité un peu. C'était vraiment très, très, très agréable de se retrouver là.
Alors, quand Firmin Letien arrive au Bel Azur Club, ils vont se retrouver face, évidemment, aux résidents sur place. Et ça va être un peu la guéguerre, quand même, des clans.
On se retrouve avec des bobos. On se retrouve avec des retraités bobos. Et c'est là qu'on se rend compte que, à tous les niveaux, il y a la lutte des classes, les bobos et les prolos. Donc, nous ne sommes pas bien vus. Notre accueil, effectivement, se fait un peu, on ne nous accueille pas, on ne nous fait pas un bel accueil. Mais comme, nous sommes des gens sympathiques quand même, nous sommes des gens intelligents, donc nous pouvons quand même discuter. Nous faisons la guerre et après nous nous réconcilions parce qu'il y a quand même un enjeu. C'est que ces anciens et ces petits orphelins soient heureux. Mais, effectivement.
Les anciens et les nouveaux vont devoir s'allier quand même aussi, hein.
Oui, mais voilà, ils sont obligés de s'allier pour rendre les gens heureux autour d'eux, et puis voilà. Et on se rend compte que bon, finalement, il y a toujours des gens qui veulent tirer parti du malheur des autres. Donc, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là uniquement pour les bons sentiments, mais pour une histoire d'argent. Donc, voilà, on ne va pas tout raconter.
Non, exactement. Et puis, il y a un très très beau retour surprise, mais évidemment, on vous dévoile absolument rien à la fin du film. Il faut rester jusqu'à la dernière minute. Vous aurez un très très joli retour surprise, en tout cas à la fin du film.
Oui, vraiment, vraiment. Et ça nous avait fait très plaisir. Nous étions très émus, effectivement, de tourner cette scène extraordinaire.
On n'en dit pas plus. Voilà. Là, on a teasé, ils vont tous avoir envie d'y aller dans deux jours. Comment tu te sens, Firmin, à chaque fois quand t'as un film qui sort au cinéma comme ça, comment tu te sens à quelques jours? Parce que j'imagine que voilà, t'as l'envie de faire bien, surtout sur une aventure chorale comme ça.
Oui, mais effectivement, la chance que nous avons, justement, par exemple, sur Maison de Retraite 2, comme nous l'avions fait pour Maison de Retraite tout court, le premier volet, c'est que nous avons fait beaucoup d'avant-premières et nous voyons la réaction des gens.
C'est des prescripteurs pour la sortie du film.
Voilà, donc les gens sont tellement heureux qu'à la sortie, dans deux jours, le 14 février, on sera serein parce qu'on sait que les gens viendront passer, auront envie de venir passer un très bon moment. Nous avons vu les réactions. Moi, la première ville que j'ai faite avec Kev, c'était le 9 décembre au Sable d'Olonne. C'était un grand lieu, il y avait 9 salles.
Ouais, c'était Grand Palace.
C'était le Grand Palace et les gens n'ont pas bougé quand on faisait, parce qu'on faisait des présentations au départ et pour d'autres, on venait rencontrer les gens après la sortie. Personne ne sortait de la salle parce qu'ils avaient envie de nous rencontrer et poser des questions, nous poser des questions. Donc, non, on est plutôt serein là.
Bon. Tes projets, on va terminer par tes projets pour 2024. Alors, il y a des choses qui arrivent. Malgré tout, tu sembles porter chance quand même au film. Parce que quand tu vois La Première Étoile, du coup, il y a eu une suite. Là, tu fais Maison de Retraite, il y a encore une suite. En gros, si les réalisateurs veulent voir un succès au cinéma, ils prennent Firmin Richard, s'ils veulent faire un 2.
Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, moi, je dis que je suis la comédienne à millions. Pour moi, je commande au moins 1 million d'entrées. Pas moins. Donc, quand j'en fais 2-3, je suis ravie. Quand on a comme ça de très beaux sujets à traiter, je prends du plaisir à le faire, à faire ces films. Et puis voilà.
Alors, moi, les projets.
Mes projets. Je suis en train de préparer un seul en scène. Je suis partie aux Antilles en résidence de création. Là, je pars le 14, je fais la sortie de Maison de Retraite et je pars le 14 à Montauban, où je vais jouer cette pièce qui s'appelle Olympe, c'est sur Olympe de Gouges. C'est un seul en scène avec des musiciens.
Donc tu seras mercredi, après-demain, tu seras à Montauban.
Je serai à Montauban mercredi, je ferai l'avant-première le 13, demain 13, et le 14, je descends à Montauban jusqu'au 26, parce que le 26 c'est la générale, le 27 j'ai une représentation à 14h pour les scolaires, parce que Olympe de Gouges est joué et travaillé maintenant au collège, et puis j'ai une représentation publique à 20h, le 27, voilà.
Le 27 février, si vous êtes dans le coin de Montauban dans le Tarn, voilà, et Garonne, eh bien, n'hésitez pas à aller découvrir Firmin Richard sur scène. Merci beaucoup, Firmin.
De rien, c'était un plaisir.
On va se requitter avec un petit extrait, et puis juste après, c'est Anne-Marie Vin qui nous rejoint. À tout de suite.
Ok, ciao, ciao.
Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer.
Ok, wow, on part sur un wad.
On en fait quoi des nouveaux?
Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi.
Génial, c'est la guerre!
Oh putain, ça recommence.
Ils vont s'entretuer, les yeux, ça va être trop bien!
Top quartier!
Top! Non mais oh! Ça va pas bien ou quoi, là?
On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous.
La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer.
Vous avez 15 jours. Passez ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom.
Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera.
Ensemble, ils sont une famille.
C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Christophe May.
Et c'est souvent après. Vous ayez été là.
Et oui, il y a beaucoup de gentils hein, dans Maison de Retraite, mais il y a aussi une méchante. Oui. La méchante reine, incarnée par Anne-Marie Vin, qui est avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de te retrouver, t'es une fidèle de l'émission et c'est vrai que c'est un plaisir tellement jouissif de te voir jouer une méchante. Pour toi, j'imagine le plaisir aussi.
Ah oui, moi j'adore ça. J'avais déjà eu une première méchante il y a quelques temps dans la dernière saison de 10% que j'avais adoré interpréter. Élise Formin, la méchante qui fait tout capoter. Et là, c'est vrai que quand Claude m'a proposé le rôle de la méchante reine Montrosier, j'ai sauté dessus parce que c'est vraiment... elle incarne, c'est très ludique de faire ça parce que c'est vraiment la méchante dans Scooby-Doo.
Ah bah oui, et puis son but c'est vraiment de récupérer tous ses résidents pour limite que faire de l'argent, il n'y a que l'argent qui compte pour elle.
Son but n'est que la spéculation, c'est tout. Elle n'en a strictement rien à faire de l'humain, ça ne l'intéresse pas. Elle dirigerait des maisons de retraite comme elle dirigerait un chenil, comme elle dirigerait une équipe où il n'y aurait aucun être humain. C'est, pour elle, c'est exactement la même chose. Elle incarne un peu, bon, bah, après le scandale d'Orpea, évidemment, c'est une vie.
Ça résonne.
Bah, bien sûr, ça résonne. Mais elle incarne aussi tous ces gens qui vraiment, l'humain est totalement passé de l'autre côté, quoi. Et puis elle incarne aussi, c'est ce qu'on se disait avec Claude, c'est-à-dire ces gens qui n'ont fait que des écoles de commerce, qui arrivent avec base plus 15, mais qui ne sont jamais confrontés à la vraie
réalité, à la réalité.
À la réalité. C'est-à-dire que c'est une femme qui dirige des maisons de retraite, mais qui ne va certainement jamais au sein de ces maisons de retraite.
C'est ça qui est dingue. Et puis, ce qui est le plus flippant dans l'histoire, c'est que, évidemment, faut pas faire une généralité et dans la grande globalité, dans les maisons de retraite, voilà, c'est très très bien. Mais malheureusement, dans la vraie vie, il y a des reines.
Ah ben malheureusement, et non seulement il y a eu des reines, mais il y a eu carrément même le scandale d'Orpea, qui était une enquête très salutaire. Bon, maintenant je ne suis pas certaine que les choses soient encore complètement guéries, mais c'est vrai que grâce à ce genre de film, comme Maison de retraite, qui est avant tout un divertissement, ça permet aussi quand même d'éclairer sur le fait que bah on va tous vieillir, de prendre le sujet à bras-le-corps et...
poser les bonnes questions.
Exactement, ouais.
Et puis, il faut dire que c'est un film qui est tellement intergénérationnel. Ça va interroger aussi bien aussi les plus jeunes, les parents qui seront grands-parents demain. Enfin, ça interroge tout le monde, c'est ça qui est bien sous le ton d'une comédie. Rien de tel pour sensibiliser le public. Exactement. Que la comédie.
Oui, et puis de rire aussi. Et puis il y a un truc très savoureux dans ce film, c'est de voir cette bande d'acteurs, hein, qui a quand même une carrière incroyable tous, se marrer comme si c'était leur premier film, quoi. Moi, c'était savoureux, c'est-à-dire que j'ai une séquence notamment avec Jean Reno, Daniel Prévost et Michel Jonas, où vraiment je les voyais s'amuser, mais comme des gamins.
Bien déguisés, vous verrez.
Oui, bien déguisés. Et c'était tellement chouette, on a ri, on a fait que rire pendant toute cette journée de tournage. Donc ça pour moi c'était vraiment un bonheur.
Et puis face à Milan, évidemment, c'est là où tu partages le maximum de scènes avec Eve Adams. Ouais. C'est cette confrontation permanente dans le film avec Milan.
Oui, 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 avec le bien et le mal, hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est un Disney. Hein. Elle est odieuse. Et puis surtout, elle ne le comprend pas. C'est-à-dire que elle ne comprend pas quelles sont ses motivations. Lui, il est que dans l'humain, et elle, ça la dépasse totalement. Elle se dit non, moi je peux. Bon, il est gentil, mais il faut pas non plus qu'il marche trop sur mes plates-bandes parce qu'il risque d'avoir beaucoup trop de succès et du coup elle ça va l'empêcher de rendre des comptes à ses actionnaires et pour elle les retraités ne sont que des comptes qu'elle doit rendre justement sur ses entreprises.
Alors évidemment pour pas défleurer le film hein, et vous laisser le maximum de surprises possibles, on va voir que t'as un lien avec Stéphane Debac à un moment donné, avec Luna Espinosa, il y a plein de liens qui vont se faire tout au long évidemment de cette histoire. Mais est-ce que toi t'as une scène particulière qui t'a marqué?
Oh bah la scène dont je parlais, c'est-à-dire me retrouver en face de Jean Reno, Daniel et Michel déguisés. Je ne peux pas vraiment
dire dans quel contexte ni pourquoi.
Oui, mais ça a été vraiment, on a beaucoup ri. Beaucoup.
Ça, c'est Paris. Ce sera en 2024. C'est le nouveau film de Marc Fitoussi auquel tu participes. Nouvelle série après les Cyclades. Marc Fitoussi revient à la série.
Oui, Marc Fitoussi qui était moi qui m'avais dirigé déjà dans la dernière saison de
10%, qu'on a réalisé beaucoup. Oui.
Exactement. Et là, c'est avec Alex Lutz, notamment parce qu'il y a plein, il y a Charlotte de Turquet, Monica Bellucci, Aurore Clément. On est très très bien entouré. Dominique Besnéard qui joue dedans d'ailleurs, Dominique. Donc voilà, il y a ça et puis il y aura aussi Sous la scène, le film de Xavier Jeance sur Netflix, qui est une sorte de Dents de la mer. dans la Seine.
Et nous faire flipper.
Ouais, exactement.
Et ça, ça va sortir courant 2024 aussi, c'est annoncé dans le courant de l'année. Merci beaucoup Anne d'avoir terminé avec nous.
Merci beaucoup et bon film.
Oui, Maison de Retraite, c'est mercredi au cinéma. On rappelle qu'on dédie évidemment cette grande spéciale aujourd'hui dans cette émission à Marianne Garcia, à Mylène de Mongeau. Voilà, qu'on embrasse fort, voilà, où elles sont. On est sûr qu'elles nous écoutent et qu'elles vont voir ce film et qu'elles vont être très très fières du boulot que vous avez fait en tout cas.
Merci beaucoup.
À très vite.
À très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le grand plaisir de recevoir Aurore Delplace et Kevin Lévy, deux de vos héros préférés de vos séries quotidiennes, Ainsi Grand Soleil. Et de Demain nous appartient. Pour Ici tout commence, c'est Zoé Séverin qui viendra également nous parler du Nikon Film Festival dans lequel elle a notamment coécrit un des films en compétition. Chloé Chaudeuil et Arthur Dupont sont avec nous pour le nouvel épisode inédit des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et puis on aura le plaisir également de recevoir Bruno Solo pour tout cela. Je te le donnerai dernière soirée sur France 2.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.